L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'AJT du local, de retour après une petite semaine de pause. Salut Claire, comment ça va ?
Salut tout le monde, et oui, en direct à Château-Gontier, ça fait plaisir, après une semaine, ça faisait longtemps, oh là là.
Exactement, on est très contentes donc de refaire à nouveau cette émission, de vous retrouver en tout cas, on espère que vous aussi. Donc en ce lundi 8 mars évidemment, on va parler aujourd'hui, donc journée internationale des droits des femmes, d'une association féministe lavalloise, une asso à soi, vous verrez un peu quels sont leurs combats. On va commencer aussi toute une série d'interviews autour du collectif Unissons nos différences à l'occasion des semaines d'éducation contre les discriminations, et on commence avec l'association Les Deux Rives qui propose plusieurs structures de logements accompagnés. Et début de la semaine, donc début de notre série, à l'atelier de Fanny Chauvet, qui est l'une des seules restauratrices de tableaux du département.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, un nouveau préfet en Mayenne.
Xavier Lefort a pris ses fonctions ce matin lors d'une cérémonie organisée à 9h devant le Monument aux Morts. L'ancien secrétaire général de la Cour des Comptes remplace Jean-Francis Treffel, qui lui devient préfet de l'Allier.
Appel à la grève ce lundi à l'usine Bell à Évron.
Les salariés se sont regroupés devant l'usine ce matin à l'appel de la CGT et de la CFDT. Ils réclament des hausses de salaire conséquentes. La direction ne propose pour l'instant qu'un pour cent d'augmentation. Eux en exigent 3%. En effet, le chiffre d'affaires de Bell a progressé malgré la crise sanitaire de 1,5%.
Coup d'envoi pour la campagne des tests salivaires dans les écoles.
Elle débutera en milieu de semaine prochaine en Pays de la Loire, dans certains établissements ciblés. Ces tests salivaires nécessitent de récupérer la salive des enfants via un crachat dans un flacon, ou pour les plus petits via une pipette sous la langue. Le consentement des parents est impératif pour ces tests. Une dizaine de médiateurs a été recrutée par le rectorat pour les réaliser.
200 teufeurs manifestent dans les rues de Laval.
C'était samedi dans le centre-ville, ils étaient plus de 200 et 8 camions à défiler pour soutenir les organisateurs de la mascarade. Cette rave party qui a eu lieu à Lieuron, en Ille-et-Vilaine, pardon, avec plus de 2000 personnes au Nouvel An. Depuis, 9 personnes ont été mises en examen dans cette affaire, notamment pour mise en danger d'autrui, ce qui est complètement injuste selon cet teufeur de Laval.
Le pays de Château-Gontier est bien placé pour son programme d'amélioration de l'habitat.
Troisième au niveau national et premier dans les Pays de la Loire, avec une moyenne de 114 logements par an engagés dans un programme de rénovation dans la communauté de communes. Entre 2014 et 2017, le programme d'amélioration de l'habitat PIG a permis d'améliorer 512 logements sur le pays de Château-Gontier.
Les collectivités territoriales incitées à faire leur transformation numérique.
En Mayenne, les communes et départements ont accès à un fonds de 300 000 euros si elles déposent un dossier de mise à niveau numérique. Au niveau national, ce fonds atteint la somme de 88 millions d'euros. Objectif, financer la création ou l'amélioration des services en ligne d'une collectivité. Un nouveau site internet, des démarches dématérialisées ou la formation de ses agents à l'utilisation de ces outils digitaux. Les mairies et collectivités territoriales peuvent déjà déposer leur dossier en préfecture.
4 ateliers numériques mis en place par le centre social à Château-Gontier.
Chaque cours collectif dure 1h30, étalé pendant un trimestre. Au programme, la prise en main d'un smartphone, la protection des données personnelles sur Internet, la découverte des réseaux sociaux ou la prise en main de l'application WhatsApp. Session gratuite sur inscription au 02 43 09 55 80 ou par mail à centre.social@chateaugontier.fr.
Plus de stationnement gratuit les samedis à Laval.
Depuis samedi, le stationnement dans les rues de Laval est redevenu payant. Attention, la première heure dans les parkings avec barrière, elle, reste gratuite. Et la municipalité rappelle que l'accès au réseau de bus Tulle est gratuit le week-end depuis le 1er janvier.
Et Marie, les combats pour les droits des femmes à l'honneur ce lundi.
Oui, on en a parlé en tout début d'émission. Le 8 mars, c'est donc la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, nous avons interrogé l'une des créatrices de l'association féministe lavalloise, une asso à soi. Elle se fait appeler Simone et a organisé hier avec la coprésidente de l'association Coco un débat virtuel sur les droits toujours à conquérir pour les femmes en France. Au menu des discussions, tabous autour des règles, éducation au consentement ou encore éducation sexuelle, une asso à soi veut aussi mener des combats à l'échelle de la Mayenne.
une asso féministe qu'on a volonté d'ancrer localement. C'est-à-dire on veut agir vraiment sur le territoire lavallois pour montrer que les féministes sont aussi en Mayenne et puis aussi pour faire un peu bouger les choses sur ce territoire où on a l'impression qu'on n'est pas concerné par les problématiques féministes, alors que bien sûr que si. Nous, on a lancé une enquête sur le harcèlement de rue où on a déjà recueilli à peu près un peu moins d'une centaine de réponses, à peu près 80-90 réponses, je crois. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le harcèlement de rue à Laval, bah, il est bien présent. Et c'est pas parce qu'on a l'impression que Laval, c'est pas une ville où règne une insécurité impossible à gérer. Et pourtant, on a affaire à du harcèlement de rue, surtout chez les jeunes filles. Et on se rend pas compte, je pense, à quel point ça envahit nos quotidiens. Parce que du coup, quand on est fille, quand on est femme, eh ben, on va adapter nos comportements dans l'espace public pour éviter le harcèlement de rue. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'on n'est pas libre d'être qui on... de faire ce qu'on veut dans l'espace public.
Justement, parce qu'aujourd'hui, donc, c'est la journée internationale des droits des femmes. Pourquoi, pour vous, c'est encore utile qu'elle existe, finalement, cette journée ?
Parce que le combat n'est pas gagné, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas encore arrivé à l'égalité salariale, même si elle est dans la loi, elle n'est pas dans les faits, parce qu'il y a encore beaucoup trop de violences faites aux femmes, il y a beaucoup trop d'agressions sexistes et sexuelles, parce que même dans une ville comme Laval, il y a du harcèlement de rue. Et c'est tout ça qui fait que... Et puis parce que à l'heure actuelle, on peut encore nommer ministre ou récompenser au César des hommes accusés de viol. Et c'est pas normal et c'est un vrai affront pour les victimes. C'est une question difficile parce qu'on n'est pas tous prêts à s'engager, à militer. C'est un engagement lourd. On peut être vigilant au quotidien, s'informer, c'est très important. Allez, il y a plein de littérature qui existe sur le sujet, que ce soit sur les violences sexuelles et sexistes. Par exemple, on peut lire le très bon livre de Valérie Ré-Robert qui s'appelle « Une culture du viol à la française » et qui explique bien les mécanismes de cette culture du viol. Et puis après, bah, en société, c'est aussi réagir quand on se retrouve face à des situations sexistes ou des situations de violence. Mais c'est vrai que ces situations-là, elles ont plus tendance à se faire en huis clos quand même.
Si vous voulez joindre l'association, vous pouvez la contacter sur Instagram, unassoassoi tout attaché, ou bien par mail à unassoassoi@gmail.com. Elle fait partie des associations qui luttent contre les discriminations. Les Deux Rives proposent des logements accompagnés pour les personnes en situation de précarité. On vous en dit plus d'ici quelques minutes, le temps d'écouter A Little Taste of Soul de Martha High. I got rhythm all in my shoes, sore from having the blues. So come on, baby, come along with me and catch this little taste of soul. I say catch a little taste, a little taste of soul. Way before you grow too old, we can all have a little thing and grow. You can come and ask me 'cause the show ain't no. I got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me. Little taste of soul. I said, if you wanna get a little taste of this, you gotta be ready to go like this. We all got the feeling in our soul. So don't you worry about getting too old. I've got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me and catch a little. A little taste of soul. Way before you grow too old, we can all have a little thing and grow. You can come and ask me 'cause the show ain't no. I got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on baby, come along with me and catch a little taste of soul. It's alright. Come on. Oh, early in the morning I'm giving you. c'était Martha High, alors avec mon bel accent français encore une fois, A Little Taste of Soul sur l'autre radio. On en parlait en tout début d'émission à l'occasion des semaines d'éducation contre les discriminations portées en Mayenne par le collectif Unissons nos différences. Nous vous proposons de découvrir chaque jour une association qui fait partie de ce collectif, ses combats, quelles sont ses missions. Pour cette première interview, place à l'association Les Deux Rives, qui gère plusieurs structures de logements accompagnés, qui soutient les personnes pour sortir de la précarité. Quels publics sont concernés ? Réponse avec le directeur de l'association Les Deux Rives, Jean-François Rossignol.
Ce sont toutes les personnes qui se trouvent sur une situation de précarité au moment de leur vie. J'utilise le mot « en situation » parce que la précarité, c'est pas quelque chose de figé, on l'espère, c'est quelque chose sur un temps donné, défini. Et notre objectif, c'est apporter par l'hébergement ou le logement un accompagnement éducatif et social pour que les personnes puissent retrouver une autonomie à travers le logement. Ça, c'est la partie plutôt hébergement-logement, donc ça dans différents dispositifs. Alors, ça peut être du CHRS, de la maison relais, de la résidence sociale, ou pour les plus jeunes de 18 à 25 ans, un dispositif qui s'appelle HAIJ, ou pour les situations personnes en sortant d'incarcération. Voilà, il y a plein de toutes des situations qui fait par lesquelles on peut se retrouver en situation difficile en tout cas.
Si on peut peut-être détailler du coup pour mieux comprendre, donc ce que vous appelez le CHRS ou la maison relais, ça va être par exemple pour quel type de public?
C'est vraiment la situation au CHRS, c'est pour les personnes qui sont vraiment le plus en difficulté, je dirais. Souvent, c'est une situation après un passage à la rue, ou une situation vraiment plus d'hébergement, où les personnes se retrouvent avec une situation administrative, pas tout à fait aboutie, le RSA n'est pas arrivé, la CAF n'est pas faite, où il n'y a plus du tout de logement. Donc là, c'est des personnes qui peuvent rentrer au CHRS. Quand on parle CHRS, c'est un accompagnement éducatif et social, où à la fois on apporte aussi un hébergement avec un hébergement où c'est un petit studio qui est aménagé après à charge qu'il puisse faire son alimentation, mais et il y a tout des rendez-vous assez très réguliers pour que la personne puisse retrouver le chemin de l'autonomie avec un temps de entre 6 mois et 1 an. On a le même dispositif, on n'appelle pas ça un CHRS, mais c'est un hébergement d'accompagnement par l'insertion pour les jeunes de 18 à 25 ans. Alors, c'est pas dans un foyer, c'est dans le DIFU. Donc là, c'est pour vraiment particulier pour les jeunes, avec deux critères, pas de logement et pas de revenu, qui permet en tout cas aux jeunes de retrouver une situation stable à travers le logement, et toujours, dans le cadre du logement, un accompagnement éducatif et social qui permet de retrouver une situation plus stable.
Donc ça veut dire que concrètement, au quotidien, dans la semaine, il y a des rendez-vous qui sont prévus. Comment ça fonctionne?
Alors, pour les jeunes, c'est souvent des rendez-vous qui sont plutôt en lien dans l'appartement, parce qu'on travaille sur deux notions. La notion de vivre dans un logement seul en autonomie, qui n'est pas évident, surtout une situation pour les personnes qui sont relativement comme 18 ans. Donc c'est un accompagnement très pragmatique, hein, c'est... savoir vivre dans un collectif, respecter des règles, savoir faire le ménage, savoir s'alimenter. Et puis, de l'autre côté, tout un penchant plutôt éducatif et social vers l'insertion, retrouver soit une formation, soit une base d'emploi, les liens aussi familiaux. Voilà, ça c'est toute la partie sphère éducation et sociale. Donc c'est des rendez-vous très réguliers, hein, soit dans le logement, soit dans des bureaux, un accompagnement très serré, des coups de téléphone, des passages, voilà. C'est vraiment garantir en tout cas un accompagnement assez présent. L'idée c'est que retrouver de la confiance en soi, quoi. Je crois que les personnes qui sont dans une situation comme ça, elles sont très démunies, peu de confiance en soi. Donc c'est retrouver à travers cet accompagnement. Du désir, de l'autonomie pour qu'ils puissent se débrouiller seuls un peu plus tard. Et souvent accompagner aussi avec du soin parce que des fois il y a une situation de problème addictif ou psychologique ou psychiatrique, donc c'est les accompagner aussi dans le soin.
Donc là on est vraiment sur un accompagnement, vous le disiez, très présent, et il y a aussi d'autres logements que vous proposez où cet accompagnement il est un peu moins régulier.
Peu moins présent. Tout à fait. Alors, il y a encore toujours dans un système, c'est la maison, on appelle ça la maison relais. C'est un accompagnement pour des personnes qui qui sont en situation, évidemment, de précarité et puis aussi d'isolement. La grande différence, il y a une stabilité plutôt administrative qui est faite pour les personnes bénéficiaires de maisons relais, c'est-à-dire qui sont peut-être souvent sous tutelle ou accompagnées déjà, ou qui ont eu un passage au CHRS. Donc, sur le plan administratif, les choses sont réglées, mais qui ont toujours besoin d'un accompagnement plutôt à vie, dans le logement, toujours. Toujours, l'accompagnement se fait dans le logement. Je vis dans mon logement et comment à partir de mon logement, je peux m'insérer, retrouver du lien social et puis retrouver une sécurité qu'on fait. Donc là, c'est un accompagnement plutôt de présence, d'animation, d'accompagnement, en fait.
Quand vous dites d'animation, ça veut dire que ça regroupe aussi plusieurs locataires ou...
Oui, ça peut regrouper plusieurs bénéficiaires qui vont faire des activités ensemble à un moment donné parce que c'est des personnes qui sont souvent très isolées. Donc, on retrouve du lien social. Et à travers le lien social, on retrouve aussi de l'autonomie et de la confiance en soi. La maison relais, c'est un bail comme vous et moi qu'on peut signer. C'est vraiment, ils sont chez eux. Ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. Là, avant, c'était de l'hébergement. C'est pour ça qu'on différenciait les choses. Quand on parle d'hébergement, il y a une durée, il y a un contrat de séjour, un contrat éducatif. Là, dans la maison relais, c'est vraiment leur maison. C'est un appartement. Ils sont chez eux. Ils signent un bail avec un accompagnement. Donc, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. Et puis, toujours on parle du logement. Donc, je vais au fur et à mesure dans l'autonomie. On a la résidence sociale qui est là. C'est un accompagnement qui est beaucoup plus léger. Donc, pour dire que, on a un temps éducatif pour 92 personnes. Donc, on est plus, dans une partie d'autonomie, donc c'est des personnes qui sont relativement autonomes, ils ont souvent soit du RS, enfin souvent un RSA ou souvent des personnes qui travaillent. L'avantage de la résidence sociale, c'est qu'on n'a qu'une seule redevance pour l'ensemble du loyer, c'est-à-dire que la redevance comprend à la fois tous les fluides, l'électricité, le chauffage, la taxe d'habitation et comprend aussi le loyer. Et l'avantage aussi, c'est que la CAF, on appelle ça une CAF foyer, qui est beaucoup plus importante et qui permet d'un reste à charge pour la personne qui soit relativement bas avec qu'une seule facture. Donc c'est en termes de budget, c'est beaucoup plus simple en fait pour les personnes. C'est des logements aussi qui sont logés, il y a un lit, il y a tout ce qu'il faut au bureau. Et l'avantage de ça, c'est qu'on facilite le départ vers un bailleur social parce que la durée de préavis est raccourcie maximum pour que ce soit très simple dans le départ. Quoi. Et pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique, voilà, pour qu'ils aient raison, ça peut être de l'ordre de la santé, du social ou autre chose, ou accompagné vers et dans le logement, il y a un travers social qui est là pour les aider. Mais de façon beaucoup plus légère.
Donc oui, là, l'idée, c'est vraiment de pallier aux difficultés économiques et éventuelles, s'il y a d'autres difficultés à côté, mais surtout vraiment au niveau du budget, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent ici, c'est souvent en lien toujours des situations un peu qui peut emmener de la précarité, des séparations, une perte d'emploi, arriver sur le département et puis pas avoir de connaissances, voilà. Et l'avantage de la résidence sociale, c'est qu'on peut arriver, il y a une place, il n'y aura pas de liste d'attente, il y a tous les meubles qui sont fournis, il n'y a qu'une seule redevance, voilà. Les choses sont facilitées énormément pour trouver surtout un logement, en fait. Mais il faut une relative autonomie pour accéder à cette résidence sociale.
Et est-ce qu'il y a des liens, justement, entre ces différentes structures?
Alors, il y a du lien, mais chaque dispositif a bien sa commission d'admission, il n'y a pas de passe-droit spécifique d'un chemin à un chemin. On parle de parcours résidentiel au maximum, c'est-à-dire qu'on va faciliter le parcours pour que la personne devienne de plus en plus autonome, mais chacun dans ses règles d'admission.
Puisque l'objectif, donc vous l'avez dit, c'est vraiment que les personnes soient plus autonomes et en tout cas résolvent petit à petit leurs difficultés.
C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation de précarité à une situation normale, comme vous et moi. Donc c'est un passage, pour moi c'est un passage, et à travers ce passage, quel que soit le lieu ou quel que soit le dispositif d'accompagnement qui sont là, c'est essayer de tendre vers le haut, quoi, en fait. Et pour ça, c'est d'essayer d'enlever tous les éléments qui engendrent la précarité. Donc c'est à la fois le logement, le soin, le social, l'insertion professionnelle, l'isolement social.
Donc oui, il y a le logement, mais aussi tout ce qu'il y a autour.
Voilà, on part du principe que sans logement, on ne peut pas travailler le reste. Sans toi, on ne peut pas faire le reste. Pour travailler la confiance en soi, l'insertion sociale, l'autonomie, le professionnel, il faut un toit.
Et donc là, pour l'instant, tous ces dispositifs, ils sont à Laval ou vous intervenez aussi sur d'autres villes en Mayenne ?
Alors, ils sont centralisés sur Laval, mais on a des actions qui sont départementales. Hein. Par exemple, on a des appartements de coordination thérapeutique, on travaille en lien avec le GEST. Là, c'est des actions qui sont départementales, c'est-à-dire que les demandes peuvent venir de l'ensemble du département. On a beaucoup comme ça de dispositifs qui ont une envergure départementale où les logements sont situés à Laval. Mais même si les logements ou les foyers sont situés sur Laval, ça ne veut pas dire qu'on ne fonctionne que sur Laval. C'est bien souvent des actions qui sont départementales.
Et l'association, j'ai vu qu'elle avait été créée il y a quand même un certain temps. Justement, j'imagine qu'au départ, c'était pas, il n'y avait pas autant de structures et peut-être
non,
que l'accompagnement était un peu différent.
Elle avait plus de 50 ans, l'association. Et avant, c'était un foyer migrant, on appelle ça. Et c'était surtout accueillir la population migrante pour qui venait travailler sur Laval. Il fallait trouver des logements dans ce cadre-là. Donc c'était une association qui était très en lien avec la mairie de Laval, qui était très lavalloise, en fait. Et puis au fil du temps, les choses ont changé, les populations ont devenu différentes, vous savez. Et puis les besoins ont augmenté ou ont été différents, en tout cas, où les accompagnements ont été beaucoup plus présents avec la création de nouveaux dispositifs. Et puis l'association, comme au fil du temps, elle a aussi évolué au fur et à mesure des besoins et elle s'est recentrée bien sur ses missions qui étaient bien quand même le logement, quoi, le logement accompagné. Alors, à travers ce logement accompagné, elle a évolué aussi dans ses prises en charge. On fait plein d'autres choses aussi à travers le soin, à travers la sortie de la prostitution, à travers la sortie d'incarcération. Enfin, vous voyez bien, on essaye de voir toutes les difficultés que peut engendrer la vie, en tout cas, et puis essayer de dépasser les moments de précarité.
Et est-ce que là, depuis un an, avec la crise sanitaire, vous avez vu des besoins plus importants ?
Je pense qu'il y a des besoins qui sont remontés, mais je pense qu'on n'est qu'au début des difficultés, en fait.
Puisque cette interview, elle intervient donc dans la présentation plus globale des associations du collectif Unissons nos différences. Et je voulais savoir du coup comment est-ce que vous voyez le fait, donc l'action de votre association donc dans la lutte contre les discriminations.
C'est partout, mais voilà, au moins sur les foyers, sur les réseaux sociaux, c'est l'accueil sans discrimination, évidemment, quel que soit le type de discrimination, aucune discrimination, et c'est de vivre ensemble. Qu'on soit afghan, qu'on soit guinéen, qu'on soit français, qu'on travaille, qu'on travaille pas, qu'on soit malade, qu'on soit pas malade. Comment, au sein d'un foyer, qui est pas toujours simple, hein, un foyer de 80 personnes, souvent des hommes, et bien comment chacun peut vivre ensemble et se respecter les uns les autres. Je crois que c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Donc c'est comme ça qu'on y participe, me semble-t-il.
Et demain, zoom sur l'association ATD Quart Monde pour consulter le programme des animations de ces semaines d'éducation contre la discrimination. Rendez-vous sur le site collectif-und.fr. On revient d'ici quelques minutes après la pause musicale assurée par Delgrès avec Mojo D.
Pas laisser vous faire, non. Moi, je préférerais pas. J'en dis.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. C'était Delgrès avec Mojodi dans l'agité du local. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le retour de la chronique littéraire et donc des coups de cœur de Christophe. Je vous laisse écouter et découvrir celui d'aujourd'hui.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, bonjour. Je vais vous parler d'un roman qui m'a extrêmement plu parce qu'il m'a fait rire et parce que je l'ai trouvé grinçant. Et je trouve que dans cette période où on cherche tous le bonheur, eh bien je vous invite à le découvrir avec ce livre signé J.M.R. En fait, il s'appelle Jean-Marcel R. Et ça s'intitule « Le bonheur est au fond du couloir à gauche » aux éditions Buchet-Chastel. Bah oui, vous le saviez pas. Le bonheur, voilà, il est là, au fond du couloir à gauche. Bon bah voilà, on va suivre un personnage. Ce personnage s'appelle Michel H. Ah, on dirait Michel Houellebecq. J'adore. Michel H, il a une quarantaine d'années. Il vit dans un immeuble. Il est pas mal déprimé. Il a une relation très particulière avec ses voisins. Et il va, dans sa déprime, il va se pencher sur toute la littérature dite « feel good ». Vous savez, actuellement, depuis des années, je dirais même qu'il existe toute une littérature qui va vous aider à être beaucoup plus heureux, qui va vous aider dans le développement personnel, etc. Et donc, il va découvrir ces ouvrages et il va réfléchir sur la notion du bonheur. Et c'est génial. C'est génial parce que ça nous fait rire. Parce que c'est à la fois très croustillant, c'est intelligent, c'est subtil, ce n'est jamais vulgaire, c'est la découverte du bonheur, mais vous savez qu'il n'existe pas. Donc, lisez ce livre. Voilà. Si vous voulez, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est un super mélange, un super cocktail entre Michel Houellebecq et Fab Caro. Vous voyez ? Vous les connaissez ? Alors jetez-vous sur ce livre qui s'intitule « Le bonheur est au fond du couloir à gauche » signé Jean-Marcel R. aux éditions Buchastel. À bientôt.
Retrouvez M. Lire en joue à 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier ou et sur l'autre radio.
Et oui, sur l'autreradio.fr évidemment, cette chronique à réécouter. Et à écouter aussi demain à 7h30 pour les plus matinaux d'entre vous sur cette antenne. Comme promis en début d'émission, cette semaine, on vous emmène dans les pas de Fanny Chauvet, ou plutôt dans son atelier à Bouesset, puisqu'elle y est restauratrice de tableaux, l'une des rares du département. Accompagnée de sa collègue Griselda, elle donne vie à des tableaux plus ou moins abîmés par le temps. Visite de l'atelier avec Fanny Chauvet.
Alors, il y a beaucoup de tableaux, il y a aussi quelques panneaux, donc des tableaux peints sur bois. Un peu de cadres, même si je ne restaure pas des cadres, c'est vrai que voilà, ça m'arrive de les nettoyer ou de travailler avec des collègues qui les restaurent. Donc on a à la fois des tableaux de la Sarthe, de la Mayenne bien sûr, de la Manche, de l'Eure-et-Loire. Voilà, je travaille beaucoup avec les monuments historiques, donc c'est des tableaux qui se trouvent dans les églises. Et là on a à la fois, alors j'ai pas mal de 17e siècle en ce moment. Mais il y a aussi un petit peu de 19e, du 18e, et puis tout ce qui est plutôt portrait, paysage. Alors ça, c'est plus les particuliers. C'est vrai qu'au départ, c'est plutôt les conservateurs qui me contactent, donc avec qui on se connaît depuis pas mal de temps. Donc les conservateurs à la fois départementaux, donc on appelle ces conservateurs des CAOA, des antiquités objets d'art en fait. Et puis les conservateurs aussi régionaux, qui sont les conservateurs des monuments historiques, donc qui sont à la DRAC. Et donc dans les Pays de Loire, en fait, il y a deux conservatrices. Donc souvent, ça passe par eux, pour tout ce qui est monuments historiques. Et sinon, après, c'est les particuliers donc qui me trouvent soit dans les pages jaunes, soit bouche à oreille, soit voilà. Donc là, c'est vrai que j'en ai eu un peu plus de particuliers avec le confinement. Sinon, je travaille à 80-90% quand même avec les monuments historiques et aussi un peu les musées. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de cas de tableaux qui n'étaient pas restaurables. Là, j'ai eu des cas qui étaient vraiment assez importants. Alors en ce moment, je pense que le cas le plus important à l'atelier, c'est un tableau dans la Sarthe, donc un tableau de Courtillet, qui était aussi très abîmé et très lacunaire. Par chance, c'est un tableau aussi qui... la scène principale est quand même en entière et c'est un tableau qui est en fait d'un autre tableau. C'est vrai que nous, dans notre métier, en fait, on a deux parties. Normalement, on est conservateur-restaurateur. C'est-à-dire on a la partie conservation, c'est tous les traitements qui va faire en sorte de stabiliser l'œuvre et de la rendre pérenne dans le temps. Donc ça va être par exemple refixer des écailles pour pas perdre de couche picturale, voilà, réparer des déchirures, voilà, des interventions qui sont essentielles pour la sauvegarde de l'œuvre. Et après on a la partie plus restauration qui sera plus la partie esthétique, les traitements esthétiques qui seront plus du dévernissage, des masticages, des retouches pour remettre en valeur en fait l'œuvre et lui redonner une bonne lisibilité. Dans le cas, par exemple, d'incendie, il y a des fois, c'est possible, si la toile brûle, bon, là, j'ai un tableau aussi qui a brûlé. Donc, la toile, par contre, a été, est en bon état. En revanche, la couche picturale, il y a eu des cloques qui sont tombées et après, ça a été repeint. Bah, heureusement, voilà, les lacunes sont quand même encore bien situées et ça n'a pas brûlé partout. Mais après, bon, il y a des fois, on ne peut pas faire des miracles aussi. Par exemple, sur ce tableau brûlé, on verra qu'il n'a pas une texture lisse. On verra quand même ce côté un petit peu cloqué. Mais voilà, il sera quand même stable dans le temps et on pourra quand même le percevoir mieux que ce qu'il était après avoir brûlé. Pour les particuliers, des fois, c'est 4 heures parce que ça sera un petit dévernissage et voilà. Et puis là, j'ai des tableaux, c'est 260 heures de travail. Sachant que voilà, on ne va pas faire 260 heures d'affilée. On travaille toujours sur plusieurs tableaux à la fois. Donc j'ai des périodes où je fais que du support, vraiment de la conservation. Et puis des périodes où après, je fais que de la restauration.
Et demain, on va s'intéresser un peu plus en détail au parcours de Fanny Chauvet entre l'Égypte, la Belgique et donc la Mayenne. C'est l'heure de la rubrique initiative présentée par Claire et aujourd'hui jusqu'au 31 mai, on peut participer à un éco-défi, Claire.
Et oui, le service environnement d'Éco-Évron propose un défi en partenariat avec les commerçants et les artisans. 3 défis sont à relever, le réemploi par la réparation et la transformation d'objets, le sans-déchets par l'achat de produits en vrac et l'éco-produit par l'achat de produits biologiques. Pour valider ces actions, il faut les tamponner dans un carnet à récupérer auprès des commerçants partenaires. Un tirage au sort est prévu le 2 juin pour tenter de gagner de nombreux lots. Pour Lucille Prel, chargée de communication pour la communauté de communes, l'objectif est d'inciter les habitants au bon réflexe écologique et à la réduction de leurs déchets. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site www.coevron.fr.
C'est bien noté, Claire. Et on prend la direction de Cran maintenant, où une association décore les vitrines de la ville.
Et oui, l'association culturelle Octopus lance l'opération Lèche Vitrine. L'objectif est de redonner vie aux vitrines vides de la ville en proposant des panneaux d'exposition d'art. Deux expositions ont déjà été installées. Willy Home dans l'ancienne librairie et Fabien Groslot et Damien et Mathieu demain dans l'ancienne maison de la presse. Si vous êtes propriétaire de vitrines vides, n'hésitez pas à les contacter au 06 42 05 28 10.
Donc c'est l'association Octopus qui propose ces expositions éphémères, en tout cas pour profiter de ces vitrines vides. Merci beaucoup Claire pour toute initiative, idée, message à passer. N'hésitez pas à contacter notre répondeur ou à laisser un message en tout cas sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Vous pouvez aussi évidemment, on le rappelle, nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, nom du compte tout simplement L'autre radio. Eh bien, merci beaucoup, Claire, puisque c'est déjà la fin de cette émission, la JT du local.
Et oui, ça y est, merci tout le monde, merci Marie, et à demain.
Et à demain, cette fois-ci, on ne vous lâche pas, on est reparti pour une semaine d'émissions à suivre à l'antenne. En tout cas, à 19h, il y aura Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque de Joël, notre programmateur, et à 21h de l'aléatoire avec Sophie, Rodri Davis ou encore My Jazzy Child. Ce ne sont que quelques-uns des artistes que vous pourrez entendre. Et nous, comme Claire l'a si bien dit, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.